Cette toute petite histoire de Anne, la prophétesse, donc en Luc 2, 36 à 38, est assez curieuse parce qu'elle est tout à fait insignifiante et je crois qu'elle n'est à peu près jamais commentée. Et pourtant, je crois qu'elle a une grande importance parce que dans ces quelques lignes, dans ces quelques versets, se déploie, je crois, toute une théologie qui est pratiquement même toute la théologie de l'Évangile. D'abord, ce n'est pas rien que cette Anne, parce qu'on nous dit qu'elle est fille de Pénuel de la tribu d'Asher. Alors ça vous dit à vous sans doute pas grand-chose, mais à ceux qui connaissent un petit peu la Bible, ça dit beaucoup de choses. Pénuel ou Péniel, c'est un endroit, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu où il s'est passé des choses assez importantes, et en particulier, c'est là que Jacob a combattu l'ange. Et à la fin de ce récit, on nous dit « Jacob a vu Dieu face à face » et c'est pourquoi on a appelé cet endroit Péniel, parce que Péniel veut dire « la face de Dieu ». Et donc cette femme, Anne, elle est prophétesse, elle est fille de la face de Dieu, ou fille peut-être aussi de ce combat que Jacob a mené avec Dieu, et elle est de la tribu d'Asser, et Asser, eh bien, ça veut dire « heureux ». C'est le mot que l'on trouve 8 fois dans les Béatitudes, « heureux ceux qui procurent la paix », et à chaque fois dans le texte biblique, c'est ce mot « Asher ». Et donc voilà une femme qui est la fille de la face de Dieu, de la tribu du bonheur. Eh bien, je trouve que c'est déjà en soi-même un très beau programme pour Noël. La question, c'est de savoir comment on découvre cette face de Dieu et comment on trouve le bonheur. Et là, il y a deux écoles, je dirais. Il y a l'école de la Anne de l'Ancien Testament et l'école de la Anne du Nouveau Testament. En effet, dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait une femme nommée Anne qui prophétise dans le temple, qui elle-même souffrait de ne pas avoir d'enfant et qui va adresser ses prières à Dieu et qui sera comblée. Il est évident que ces deux récits sont liés, non seulement par le nom du personnage, et aussi par le fait qu'aujourd'hui, la plupart des commentateurs disent que ces récits d'enfance de l'Évangile de Luc ne sont probablement pas franchement historiques, mais qu'ils sont des midrashs de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des sortes de relectures, en fait, un peu commentées de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas pour principe de faire d'une écriture journalistique, si vous voulez, en expliquant ce qui s'est passé, mais qui avait justement pour mission de repenser ces histoires de l'Ancien Testament en leur donnant un décalage propre à la nouvelle théologie qui sera celle de l'Évangile. Et donc, nécessairement, ce récit de Anne dans le Nouveau Testament n'est qu'un commentaire du récit de Anne de l'Ancien Testament. Alors donc, regardons le parallèle entre ces deux textes et voyons où se trouve la différence. La différence, elle est assez simple, c'est qu'il y a, je dirais, une révolution théologique fondamentale. Dans l'Ancien Testament, Anne n'a pas d'enfant, elle prie l'Éternel, et l'Éternel lui donne un enfant. Et donc, il y a une conception, je dirais, de la providence divine, qui est une providence très matérielle. On a des problèmes, je dirais, dans la vie, on prie Dieu et Dieu arrange ses problèmes. C'est-à-dire que Dieu vient, en quelque sorte, répondre à la prière de celui qui réclame. Et Dieu peut nous permettre de nous donner satisfaction dans le sens où nous demandions satisfaction. Dans le nouveau récit, dans le récit de Anne du Nouveau Testament, la femme est aussi stérile, mais voilà que il n'y a pas d'intervention de Dieu. Et elle va rester stérile toute sa vie. Nous dit-on qu'elle était restée vierge jusqu'à son mariage, qu'elle a été mariée 7 ans, et qu'ensuite elle est restée veuve jusqu'au jour où elle se trouve là, et on nous dit qu'elle a 84 ans, ce qui est effectivement assez âgé, et ce qui ne lui donne pas beaucoup de possibilités d'avoir d'enfants. Mais voilà que cette femme, Anne, ne se plaint de rien du tout, et même, au contraire, elle va se réjouir de la venue de l'enfant Jésus. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que, voyez-vous, voici que Anne va se réjouir d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'elle va trouver de la joie ailleurs que dans ce qui pouvait être à l'origine son propre désir. On ne peut pas penser que Anne du Nouveau Testament n'ait pas eu, comme sa lointaine homonyme, un désir d'enfant très, très prononcé, surtout dans une société où ne pas avoir d'enfant était une humiliation, en plus que d'être une tristesse. Et donc, elle l'a certainement désiré très fortement, cet enfant, et voilà que vient un enfant qui n'est pas le sien et qui n'est pas celui de son propre désir, et c'est de celle-là et c'est de celui-là qu'elle va se réjouir. C'est-à-dire qu'elle va s'estimer comblée par un enfant qui n'est pas d'elle. Alors ça commence à m'intéresser. Ça commence à m'intéresser de plusieurs manières. D'abord parce que, en voyant cela, je trouve qu'elle ressemble à un autre personnage de l'histoire de Noël et qui est également souvent passé sous silence, même si c'est un personnage essentiel, c'est Joseph. Joseph également, comme Anne, va s'estimer comblé par un enfant qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'il a une fiancée, et j'imagine que comme tous les jeunes mariés ou comme tous les fiancés, il avait très envie d'avoir un enfant de sa fiancée, et voilà que sa fiancée lui donne un enfant qui n'est pas le sien, c'est-à-dire qui n'est pas le fruit de son propre désir, qui n'est absolument pas ce qu'il avait envisagé. Quand Joseph s'est marié, fiancé avec Marie, il a fait des projets, échafaudé l'avenir, il s'est dit « voilà, je vais me fiancer, nous aurons un enfant, nous l'appellerons peut-être comme ci et comme ça », et voilà que rien ne se passe comme il l'avait prévu, rien ne se passe comme il l'avait envisagé. On voit bien que cela a suscité dans l'esprit de Joseph de grandes difficultés. On nous dit même dans le récit de Matthieu que Joseph a voulu répudier sa fiancée, la renvoyer finalement et rompre avec elle, c'est-à-dire partir complètement dans une autre direction. Mais voilà qu'avec l'aide de Dieu, il va comprendre que finalement la volonté de Dieu peut s'accomplir d'une autre manière que lui l'avait envisagé, c'est-à-dire que Dieu a un autre projet. Donc Joseph avait un désir, celui d'avoir un enfant avec sa fiancée, et voilà qu'il va se passer tout autre chose dans sa vie, et Joseph va accepter cette nouvelle disposition des choses, et il va finalement s'en trouver fort bien, et le faire avec joie. Comme la prophétesse Anne, qui a toujours désiré avoir un enfant, qui va attendre 84 ans, et à la fin de sa vie, avant de mourir, elle va s'estimer comblée par un enfant qui n'est pas le sien. Je vous disais que cela ne s'est pas passé sans peine dans l'esprit de Joseph. Je crois qu'effectivement, il y a eu en lui un débat intérieur assez fort, parce qu'il est toujours difficile de renoncer à son propre désir. Il est toujours difficile de renoncer à ses propres projets. On envisage les choses d'une certaine manière, et nous sommes facilement omnubilés par cette espèce d'avenir dans lequel nous nous projetons et dont nous pensons qu'il n'y a pas d'issue possible en dehors de nos plans et de nos projets. Et là, ces deux personnages montrent justement qu'ils sont capables de sortir de leurs projets, de sortir de leurs désirs pour accepter un avenir qui n'est pas le leur, qui n'est pas celui qu'ils ont prévu et qui est à la fois frustrant, qui est frustrant par rapport à ce qu'ils envisageaient, mais qui va se révéler néanmoins plein de fécondité et de richesse. Et donc il y aura dans l'esprit de Joseph, je dirais certainement un grand débat intérieur, mais je crois aussi dans l'esprit de Anne. Je vous ai bien dit que Anne était fille de Panuel, et je vous ai dit que Panuel c'était le lieu où Jacob s'était bagarré avec l'ange, et dont il était sorti boiteux. Et voilà, tiens, un troisième personnage qui est encore, je dirais, dans ce groupe de personnages que nous voyons, de gens qui se bagarrent avec la vie, qui se bagarrent avec Dieu, avec leur avenir, avec leurs projets, avec leur plan, en quelque sorte, et qui en sortent boiteux, certes, mais bénis. Qui en sortent boiteux, mais bénis. Ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que Jacob non plus, certainement, n'aurait pas pensé que son contact avec la vie ou avec Dieu le rendrait boiteux. Il aurait certainement préféré sortir béni et pas boiteux. Mais voilà que Jacob va sortir béni, mais boiteux. Et pourtant, il sera le père de tous les croyants. Pourtant, il sera le père d'une multitude. Pourtant, il sera le grand patriarche. Pourtant, il sera effectivement béni, parce que la bénédiction de Dieu ne passe pas toujours par les chemins que nous avons voulu, nous, tracer. Et je crois que, justement, peut-être même, que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, non seulement il faut, je dirais, se faire violence à soi-même pour accepter un avenir qui n'est peut-être pas celui que nous avons prévu, mais peut-être doit-on aller plus loin et dire que Anne sera heureuse et Joseph sera comblé, précisément parce qu'ils ont chacun renoncé à leurs propres désirs. Et que l'enfant qui va réjouir tout le monde et qui va sauver le monde sera l'enfant de Dieu et pas l'enfant de leurs propres désirs. Joseph devra faire ce travail formidable d'accepter un enfant qui n'est pas l'objet de son propre désir. Non seulement ce n'est pas dans le sens de ses projets, de ses plans, mais ce n'est même pas l'objet de son désir, c'est l'objet de la volonté de Dieu. Et vous voyez qu'il y a là, je dirais, une différence, comme je vous disais, fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu est là aux ordres pour accomplir notre désir, et dans le Nouveau Testament, Dieu n'est plus là pour faire les choses comme nous le voulons, mais il nous donne finalement des solutions d'ordre spirituel qui ne sont pas nécessairement dans notre plan à nous. Et Noël, je crois que c'est justement d'une certaine manière renoncer à son propre désir pour mieux apprendre à recevoir. Renoncer à son propre désir pour pouvoir accueillir ce qui, à première vue, peut sembler indésirable et qui, en fin de compte, est infiniment meilleur. Parce que je suis persuadé que souvent, notre désir nous trompe. Joseph n'avait que faire de l'enfant d'un autre. Il n'était pas le fruit de son désir, mais il va pouvoir reconnaître que dans cet épisode qui le contrarie, eh bien, la volonté de Dieu peut s'accomplir. Et qu'il peut y avoir dans cet épisode de sa vie qui est tout à fait contraire à ses plans et à sa volonté, quelque chose qui peut-être même, finalement, est encore meilleur que ce qu'il avait envisagé. Et c'est donc l'exemple même, je crois, des bons croyants, capables de ne pas confondre leur propre désir avec la volonté de Dieu. Et je crois que là, effectivement, on est dans quelque chose qui est très fort dans la théologie du Nouveau Testament et qui est résumé dans cette demande du Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est-à-dire que justement la prière de Jésus ne consiste pas à dire « Ô Seigneur, que ma volonté soit faite par toi ». C'est malheureusement la prière, je dirais, naturelle des peuples païens ou des enfants. Et je crois qu'à l'école biblique, nous travaillons beaucoup pour essayer d'expliquer aux enfants que Dieu n'est pas là pour simplement accomplir tous nos désirs, justement. Et donc la prière du Christ n'est pas de dire « Seigneur, que ma volonté soit faite sur le ciel comme elle est pour moi, je voudrais qu'elle le soit sur terre », mais c'est « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est-à-dire que nous arrivions à nous rendre disponibles à ce qui est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu n'est pas nécessairement la nôtre. Je crois que Dieu fait toutes choses bonnes pour ses enfants. Et il y a là un acte de confiance, je crois, par rapport à la vie, ou par rapport à Dieu et ensuite par rapport à la vie, de croire que tout ce qui arrive peut concourir à notre bien. Il y a un verset comme cela dans une épître de Paul, dans l'épître aux Romains, qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Longtemps, ce verset m'a un peu choqué, parce que je le trouvais très païen, et qu'effectivement, je pouvais dire « Mais en fait, je vois de nombreuses personnes qui aiment Dieu, et je peux dire qu'il y a de nombreuses choses qui ne concourent pas du tout à leur bien, c'est-à-dire qu'ils ont des malheurs, des épreuves, des difficultés ». Et donc, comment peut-on dire « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » ? C'est simplement qu'il fallait inverser la proposition, en quelque sorte, ou tout au moins son interprétation, et de comprendre qu'à celui qui aime Dieu, toute chose peut concourir à son bien. et que lorsque l'on est capable d'accueillir la réalité sans arrêt la confronter avec notre propre désir, mais de l'accueillir avec une vraie simplicité, eh bien, ces choses-là peuvent concourir à notre bien. Cela n'est pas une chose facile. Il y a un combat à mener, il y a un travail à faire à l'écoute de Dieu, comme Joseph va écouter Dieu dans le songe pendant la nuit. Il va y avoir un combat à mener, comme Jacob avec son ange. Peut-être que nous sortirons un peu boiteux, mais nous pouvons sortir bénis. C'est cette prière fondamentale qui est non pas de nous donner ce qui nous manque, ça c'est la prière de la Anne de l'Ancien Testament, mais de prier pour que nous sachions reconnaître dans ce qui se présente à nous ce qui vient de Dieu, que nous sachions accueillir ce qui nous est donné comme étant un don possible de Dieu ou comme étant une possibilité de quelque chose que l'on va pouvoir, avec l'aide de Dieu, convertir dans du bien. Anne, dans le Nouveau Testament, est comblée par quelque chose, par autre chose que l'exaucement de son propre désir, comme Joseph, qui finalement va abandonner, je vous disais, son désir pour se convertir au service de Dieu, et qui même sera donc la personne la plus vierge de toute l'histoire. Joseph a accepté, vous disais-je, le plan de Dieu. Je crois que Joseph est vraiment le modèle du croyant. Le modèle du croyant qui accepte le Christ comme quelque chose dont il se passerait très bien, c'est-à-dire l'enfant d'un autre, et qui ne comble pas son désir à lui et qui pour autant peut changer sa vie. De ce côté-là, je trouve que Joseph est encore plus un exemple de bon croyant que Marie elle-même. Parce que Marie, cet enfant sera quand même le sien. Donc pour elle, ce n'est pas très difficile de l'accueillir. Je dirais, on lui propose d'avoir un enfant à partir de Dieu, formidable. Je pense que toute jeune fille croyante trouverait ça une chose plutôt merveilleuse, valorisante en quelque sorte. Et après tout, elle a un enfant qui est le sien. Donc. Et puis d'abord, on ne lui demande même pas tellement son avis. Elle n'a pas ce combat à mener. Alors que Joseph, de ce côté-là, nous ressemble peut-être plus parce qu'il a un combat à mener et que, je dirais qu'il est le seul dont on soit sûr qu'il soit vierge. C'est-à-dire que l'enfant qui est né de Marie, on ne sait pas de qui il est, mais ce qui est une chose certaine, d'après le texte, c'est qu'il n'est pas de Joseph. Et donc, je trouve que c'est assez paradoxal de voir que Noël, aujourd'hui, est devenu la fête où l'on comble tous les désirs des enfants, n'est-ce pas ? Noël, c'est la fête où l'on doit être comblé dans son désir matériel, alors que je crois que dans le Nouveau Testament, Noël, c'est justement la fête du désir auquel on renonce, c'est-à-dire du désir non comblé et des choses qui ne se passent pas comme on le voulait. Alors j'ai pensé un peu à cela avec mes enfants qui sont pleins de désirs de cadeaux, et je me dis, mais peut-être que Noël, finalement, c'est justement ce qui se passe une fois qu'on a reçu les cadeaux. J'imagine que les enfants, quand ils ouvrent les cadeaux, se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours reçu ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire qu'ils espéraient un jeu vidéo, ils ont reçu un livre, ils espéraient un disque de musique et ils reçoivent une guitare sur laquelle il va falloir qu'ils travaillent ou je ne sais quoi. Et donc forcément, ils n'ont pas reçu tout ce qu'ils pouvaient rêver. Alors peut-être est-ce cela le lien entre, je dirais, les cadeaux de Noël et la théologie de l'Évangile. S'il est quelque part, ce serait dans la frustration des enfants qui doivent se contenter des cadeaux qu'ils ont reçus. Et peut-être que, justement, le problème, c'est que beaucoup de gens voient les choses dans l'autre sens. Et on dit beaucoup que le moment de Noël est particulièrement difficile, je crois que c'est vrai, particulièrement difficile pour les gens éprouvés. C'est-à-dire pour les gens seuls, pour les gens pauvres, pour les gens qui ont des difficultés d'un ordre ou d'un autre. C'est un moment particulièrement difficile parce qu'on leur a peut-être trop dit ou trop fait croire que Noël, c'était la fête où on a tout ce que l'on veut. Et donc on a des amis, on a de la famille, on a des enfants qui sont heureux, on a tout est donné en quelque sorte. Alors que si vous trouvez ça dans le Nouveau Testament, eh bien c'est que vous le lisez autrement que moi. Dans le Nouveau Testament, oui, il y a un très grand don. Il y a le don du Sauveur de l'humanité. Il y a le don du Fils de Dieu. Il y a le don de celui qui est la lumière qui vient nous visiter d'en haut. Il y a le don de l'essentiel, le don de la bénédiction, le don fondamental de ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors que tous les cadeaux qu'ont reçus mes enfants à Noël, je crois très bien et très honnêtement qu'ils pourraient tout à fait s'en passer. Et tout le monde sait que ce dont ont besoin les enfants, ce n'est pas tellement des cadeaux matériels, mais c'est de bien autre chose. C'est d'une présence, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est des valeurs, c'est de tout ce que finalement on peut leur transmettre et leur donner. Et bien là, Noël, c'est justement ce cadeau, cette absence de cadeau matériel, ce cadeau qui contrarie, je dirais, le désir de ceux qui y sont et qui les comble bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient espérer. La religion, en ce sens, n'est pas, je dirais, la fille de notre propre désir, parce que je ne dois pas nécessairement chercher ce que je désire, ni demander à Dieu d'obéir à mon désir, mais je dois apprendre à me rendre disponible et à accueillir une réalité autre. La question n'est donc pas, je dirais, dans notre foi, dans notre vie religieuse non plus, de nous tâter sans arrêt si nous avons ou non le désir de lire la Bible, de prier, de faire des choses, mais la question c'est de dire oui à Dieu et de l'accueillir. Noël, c'est un petit peu trop peut-être la fête du désir humain, mais Noël dans la Bible, c'est la fête du désir humain insatisfait. Et peut-être qu'en ce sens, tous ceux qui sont les plus éprouvés peuvent se reconnaître, non pas dans les Noëls païens de cette surabondance de biens matériels, mais dans le Noël chrétien, parce qu'ils peuvent se reconnaître dans tous ces personnages de ceux qui sont frustrés et qui reçoivent bien au-delà de beaucoup de choses, parce qu'ils ont su accueillir une réalité qui était autre. Paul, à un moment donné aussi, souffre de cette faiblesse et de manquer de tout, et il prie Dieu de le combler de toutes choses, et Dieu lui répond d'une façon un peu curieuse, il lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Et je crois que c'est ça le principal cadeau de Noël, c'est d'être capable de faire confiance à Dieu et de dire « Seigneur, moi je suis peut-être dans le doute ou dans l'expectative par rapport à mon avenir, par rapport à ce que je vais devenir ou ce que je vais recevoir ou par rapport à ce que je peux même désirer pour l'avenir, mais il y a Dieu qui dit « Ma grâce te suffit ». Parce que c'est ça le cadeau fondamental et essentiel, c'est cette grâce de Dieu. Parce qu'avec la grâce de Dieu, tout peut changer. Avec la grâce de Dieu, l'enfant d'un autre peut devenir le mien. Avec la grâce de Dieu, l'attente de tout un peuple peut combler ma propre attente. Avec la grâce de Dieu, le cadeau que je ne voyais pas parce que je le cherchais ici, je peux le découvrir ailleurs parce que mes yeux s'ouvrent et que je peux enfin découvrir toutes les grandeurs et les beautés du monde qui sont offertes. C'est curieux que, nous sommes là dans cette situation d'être capable d'accepter le cadeau de Dieu, cadeau qui n'a rien à voir avec nos désirs matériels, mais ce cadeau qui peut nous transformer, nous renouveler pour la vie et pour l'éternité. Amen.